Bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis tout seul. La saison passée de Dans le Mille, vers la fin de la saison, vous avez pu voir Renaud vraiment plus en majorité tout seul. Il m'a vraiment couvert lorsque j'étais malade. Alors, je lui remets un peu l'appareil. C'était pas trop opportun pour lui d'être là ce soir. Donc, regardez, on a quand même un bel épisode devant nous avec plein de contenu. Donc, je pense que je vais être capable de me débrouiller sans mon compatriote, sans mon coéquipier, mon partner de tout projet niveau hockey. Bien avant toute chose, je veux juste commencer en parlant de Perfo Elite, donc une compagnie qui est là pour accompagner les athlètes vers leur plein potentiel. Et aussi, ben, on a Elite Prospect, donc la page qui est vraiment la ressource pour les statistiques, les informations sur les joueurs, mais avec notre code DLM30, vous avez 30% de rabais pour avoir un compte premium. Puis un compte premium, ça vous ajoute plusieurs informations sur les joueurs. Donc, on peut voir de un, il y a des articles d'analyse de match directement pour les joueurs qui ont été écrits par les analystes de Elite Prospect, mais il y a aussi juste les informations. On appelle ça en anglais des game logs, qui sont un peu en gros les statistiques par match. Donc, il y a plusieurs informations qui sont très, très intéressantes avec l'avantage de premium. On va juste commencer un peu avec les petites nouvelles, comme d'habitude, les petites nouvelles de la semaine ou des 2 dernières semaines, là, mais je suis un peu plus allé avec des nouvelles de aujourd'hui ou en tout cas de hier, là. Premièrement, le défenseur Jacob Chychrun, qui était en fait au sénateur d'Ottawa, qui a été transigé en partie contre Nick Jensen à Washington et qui fait partie, ben, peut-être un peu de la raison pourquoi les Capitals sont autant en bonne posture en fin de saison, là. Il aurait signé pour 8 ans à 9 millions. Et là, bon, ça fait poser quand même des questions parce qu'on s'entend qu'il y a un certain Lane Hudson qui aura un contrat à signer. Bon, on le sait que c'est l'année prochaine là, que sa dernière année de contrat d'entrée est à prévoir, mais on peut toujours signer un joueur un an avant, donc au 1er juillet là, de cette année, donc le 1er juillet 2025, Lane Hudson pourra signer une prolongation de contrat comme Kent Hughes avait fait avec Juraj Slafkovský. Donc, c'est un peu ça que je veux commencer par. Est-ce que Chychrun et Hudson sont vraiment similaires? Non, c'est vraiment pas des défenseurs qui sont pareils, mais il y a quand même un côté que Chychrun est là pour l'offensive. Et à 9 millions, c'est quand même beaucoup, là. Depuis le début, là, puis quand je dis le début, c'est le début que le Canadien joue comme il joue en ce moment et que Lane Hudson produit comme il le fait. Je me dis, Hudson sera le joueur le mieux payé de l'équipe à un certain moment. On s'entend qu'il y a peut-être Demidov qui va venir et qui va être capable d'avoir un contrat encore meilleur que celui de Lane Hudson, mais je pense que pour l'instant, à part les joueurs signés pour 8 ans, là, il n'y a pas de grands joueurs que tu te dis ils vont être signés plus que Suzuki à 7,850. Lane Hudson, je pense que c'est très, très, très légitime de se dire qu'en plus, avec le cap qui augmente, le cap salarial là, que je parle, je le vois demander un 8-9 millions. Puis là, ben, avec la signature de Chychrun, je pense que le 9 millions vient de pas mal être conclu, là, que ça va être ça ou plus. À moins vraiment que, tu sais, Hudson commence à avoir une saison l'année prochaine désastreuse, puis que il perde tout le potentiel qu'on voit en lui, là, ce qui serait quand même très étonnant avec le caractère de ce gars-là et le type de jeu qu'il joue, mais c'est toujours à voir dans les livres, mais c'est ça. Est-ce qu'on le signe cet été? Est-ce qu'on le signe à la fin de la deuxième saison? Parce que là, s'il y a une encore bonne saison l'année prochaine, il va demander encore plus. Donc, des fois, les GMs, puis Kent Hughes a l'air d'être ce genre de directeur général-là, il aime ça signer peut-être plus Le plus tôt possible et de comme ça, peut-être se donner une marge d'erreur là pour les prochaines années. Donc, moi, je pense que le 9 millions vient d'être complètement assuré pour le camp de Hudson. Faut penser aussi au fait que l'agent de Lane Hudson ne va pas demander 7,5 millions, là. Il sait très bien que Hudson peut aller chercher beaucoup plus. Donc, c'est ça. Peut-être que c'est une mauvaise ou bonne nouvelle. Je ne sais pas. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais Lane Hudson va sûrement re-signer pour très cher dès cet été. La deuxième nouvelle là, que je veux passer vite vite, mais c'est Gavin McKenna, donc le cousin lointain de Connor Bedard. On sait, on en a parlé souvent à dans le mille, et Gavin McKenna s'était vu peut-être comme le deuxième meilleur joueur des trois drafts, ben des quatre drafts en 2020 là, avec Connor Bedard, Gavin McKenna, c'était comme tu sais les deux têtes. Mais là, Gavin McKenna vient vraiment de complètement déchirer les chiffres de Connor Bedard en WHL. Il a fini sa saison avec comme 24 points, 26 points en 5 matchs, 129 points en 56 matchs et il n'est pas éligible à ce repêchage-ci. Il est éligible à celui de 2026. En gros, c'est la meilleure saison qu'on appelle D-1, là, donc draft moyen, repêchage moyen, depuis Sidney Crosby, qui lui avait 135 points en 59 matchs. Là, je vais juste vous ramener ça un peu en comparaison, là. Gavin McKenna, 129 en 56. Crosby, 135 en 59. Donc, Crosby a joué 3 matchs de plus, mais a fait 6 points de plus. Normalement, on se dirait 3 matchs, mais 6 points, Crosby a l'avance. Mais là, dans ce cas-là, en plus, avec le rythme auquel McKenna produit depuis un mois à peu près, là, moi, je crois que facilement, McKenna aurait fait 6 points en 3 matchs. Et donc, je pense que McKenna, si, mettons, il n'était pas allé au camp junior et qu'il avait joué toute la saison, il aurait battu ce record-là à plat de couture, là, comme on pourrait bien dire en québécois. Mais, en tout cas, c'est intéressant, ça va être intriguant. Je veux dire, regardez, peut-être pour les fans ici du Canadien, c'est frustrant de se dire qu'on a manqué Connor Bedard, puis là, on manque comme peut-être le prochain McDavid, celui des années 2030. Mais regardez, ça semble comme ça, puis on décide pas, c'est quand qu'on rebuild trop. Mais McKenna va clairement un peu comme Celebrini, puis peut-être plus même, comme on dit en anglais, le hit the ground running, atterrir. Même Lane Hudson cette année, là, atterrir dans la Ligue nationale et continuer à produire et à se développer à une vitesse ahurissante. Donc, regardez, c'est deux sujets différents, mais McKenna, c'est bien, bien excitant. Alors, vous avez pu le voir dans le titre que là, ce soir, je veux parler des séries de la LHMQ 2025 parce que, ben, les séries commencent. Et qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Ben, c'est juste excitant, c'est juste, on le sait, ça approche, je veux dire, la Coupe Memorial, on le sait que Rimouski sont les hôtes, donc on aura deux équipes de la LHMQ à la Coupe Memorial, mais c'est la frénésie de fin de saison qui commence, et ça, c'est dans 2 jours, donc il y a le premier match de série entre Sherbrooke et Blainville, mais je vais faire un tour d'horizon de chaque série, et je vais commencer avec un peu, bon, les séries qui sont peut-être moins... sont moins chaudement disputés, là, je pense. Il y a quelque chose qui est différent entre les séries de juniors et les séries professionnelles. Il y a beaucoup moins une grande parité. On le sait, les cycles des équipes juniors est vraiment court, peut-être 2, 3 ans, pour espérer avoir la fenêtre ouverte, là. Puis même là, 2 ans, c'est une fenêtre quand même très grande. Donc, juste donner un exemple, là, la première ronde de 2024, il y a eu 3 séries qui a été qui a pas été en fait terminée en 4 matchs. Donc on s'entend que c'est quand même une statistique qui serait pas la norme dans la LNH. Donc c'est ça, 3 séries qui n'ont pas terminé en 4 matchs et il y en a seulement une qui s'est rendue à plus que 6 matchs. Mais en fait à 6 matchs ou plus. Donc 2 de ces 3 séries-là, c'était 4-1 que la série s'est finie. Donc on s'entend que c'est ça. C'est la plupart du temps, la première ronde, faut s'attendre à ce que l'équipe qui est haute, l'équipe qui était la numéro 1 dans le classement, un peu démolisse, l'équipe contre qui il joue, parce que c'est ça, c'est il y a une équipe qui est au top de son cycle et l'autre équipe qui est peut-être soit dans la pente descendante ou qui recommence à peine. Mettons, je vais vous donner un exemple avec la première série qu'on va commencer, c'est Moncton contre Québec. Donc Québec, c'est un peu eux, ils recommencent leur pente. Donc on le sait, en 2023, ils ont gagné la Coupe Memorial, ils ont gagné la Coupe du Président. L'année passée, en 2024, ils ont manqué les séries et là, cette année, c'est leur première série avec leur rebuild là. Ils commencent, c'est leur deuxième année, mettons, on peut dire, de rebuild là. Et Moncton, eux, ben, ils sont vraiment pas mal au peak là. Même s'ils ont, bon, Caleb Desnoyers et quelques autres joueurs que je vais vous parler dans un instant. Premièrement, comment ça va fonctionner avec chaque série, c'est que je vais y aller avec. C'était quoi les affrontements entre ces deux équipes-là pendant la saison? Et c'est quoi le momentum que ces équipes-là amènent en série avec eux? Donc, vous allez voir, là, Moncton-Québec, c'est quand même assez, ça penche d'un côté. Pendant la saison, Québec a perdu les deux matchs en temps régulier. Moncton a gagné les deux. Dans leurs 15 derniers matchs, Moncton est en feu. Ils n'ont pas une défaite. Ils sont sur un streak, comment je pourrais dire ça? Juste, ils enfilent les victoires, 15 victoires de suite pour Moncton, alors que Québec, à leurs 6 derniers matchs, sont 0 victoire, 5 défaites et une défaite en prolongation. Donc, on s'entend que c'est deux équipes avec des momentums complètement inverses. On a Moncton qui ont gagné la meilleure équipe de la saison, donc en termes de points, 108 points en 64 matchs. Ça, c'est bon pour 8,44 de pourcentage de victoire. La deuxième meilleure équipe est Rimouski avec 96. Mais Moncton sont à 108, sont loin, là, sont loin devant, 9 défaites en temps régulier. Donc, je peux vous dire, Moncton en saison régulière n'ont plus rien à prouver. Ils sont aussi la meilleure équipe de moyenne offensive et défensive. Donc, c'est juste Moncton, en gros, là, cette saison, ils ont tout brûlé. C'est entre autres parce que ils ont des joueurs comme Caleb Desnoyers, bon, un espoir, peut-être le premier espoir québécois à sortir au draft cette année, peut-être le premier québécois dans le top 10 depuis 2020, Alexis Lafrenière. Il y a Pekarček, un joueur qu'on avait vu avec les Slovaques au championnat du monde. On a Julian Sumpf, Vidicek, qui lui avait fait un très bon bout de série, très long jusqu'en finale de la Coupe du Président, lorsque les Remparts l'avaient remporté avec, donc Vidicek jouait avec Halifax, désolé. On a Étienne Morin, Dylan Gill, un joueur qui est revenu de la AHL, donc c'est très rare qu'on voit ça, là, mais Dylan Gill a joué pour le Crunch de Syracuse, donc l'équipe AHL du Lightning en début de saison. Ça allait bien, mais pas peut-être pas à la demande du Crunch, et il est encore éligible pour retourner dans le junior. Donc, un nouvel ajout pour eux au milieu de la saison. Il produit offensivement très, très bien. Et il y a l'expérience. C'est un leader. C'était le capitaine de Rouen avant. Donc, on s'entend que c'est juste là, je vous ai nommé 5-6 joueurs et c'est des très gros canons. Mais en plus, on a Rudy Guimont. Un gardien de but, désolé, espoir de Détroit, qui en 16 parties avec Moncton a un taux d'arrêt de 9,40 et 1,73 buts contre. Donc, c'est un peu une équipe qui est puissante pour marquer des buts et à la ligne bleue avec les défenseurs et devant les buts. Donc, c'est un peu une équipe qui est parfaite, là. Québec, c'est ça, regardez. C'est leur deuxième année ou première année, même, vous pourriez dire, de leur rebuild. C'est quand même très bien déjà d'avoir juste manqué un an les séries après avoir tout un peu, comme on dit en anglais, le blow-up, là, quand toute l'équipe explose parce que les joueurs deviennent pros parce qu'ils sont trop vieux ou on échange tout pour aller chercher des choix. Il y a quand même Justin Côté, Nathan Quinn, un prospect de 2025 qui est quand même très intéressant, que j'aime bien. Et bon, faut penser à Maddox Dagenais et Louis-Antoine Deneau, donc Louis-Antoine Deneau, le grand gardien de but qui va sûrement être repêché. Puis, je l'ai pas assez vu, puis je suis pas assez bon dans l'analyse de gardien de but, mais il va être repêché selon moi parce que à ce gabarit-là, 6 pieds 9, si je me trompe pas, les équipes de la Ligue nationale vont se jeter dessus. Et Maddox Dagenais, le premier choix au total en 2024 au repêchage que Québec était allé chercher. sais, sincèrement, c'est ça. Je pense que cette série-là, si elle ne finit pas 4-0 pour Moncton, ça sera une victoire pour Québec. Juste d'être capable de remporter un match pour Québec, ça serait incroyable. Mais je veux dire, une équipe qui rentre dans les séries avec 15 victoires d'affilée, je m'attends pas à ce qu'ils ralentissent, surtout pas avec leur puissance. On va enchaîner avec justement là Rimouski. Je vous l'ai dit, c'est la deuxième meilleure équipe de la ligue, mais ça les empêche pas d'être une équipe quand même qui va devoir jouer contre Charlottetown. Donc Charlottetown, c'est une équipe intéressante. Puis vous allez voir pourquoi là. Il y a pas de grand nom, mais ça joue bien, puis c'est un bel équilibre. Je veux dire, Charlottetown sont à peine au 500, là, ils jouent pour 508. Rimouski, eux, sont à 750. Rimouski, je vous l'ai dit au début du podcast, c'est eux qui sont les hôtes de la Coupe Memorial. Et donc, souvent, ça amène de la pression. En début de saison, Renaud Pimon les avait vus jouer à Blainville, et on se demandait vraiment, est-ce que c'est ça l'équipe de la Coupe Memorial? Et là, ben, ils nous ont prouvé là, au courant de la saison que c'est une équipe de haut calibre, de très haut calibre, qui est bâtie différemment que quelques autres équipes hautes de la Coupe Memorial. Puis je vais vous en parler un peu plus tard. Mais donc, c'est quoi pendant la saison qui s'est passé dans tes deux équipes? Ben, en fait, chaque équipe a eu une victoire et une défaite, et leur victoire s'est passée à la maison. Donc, juste avec ça, je pense que le penchant serait pour Rimouski puisque c'est l'équipe haute. Mais c'est pas juste pour ça que je vais mettre le penchant du côté de Rimouski. Il y a le fait que Charlottetown, eux, en ce moment, là, dans leurs 10 derniers matchs, ils sont 3 victoires, 5 défaites, 2 en prolongation. Donc, on s'entend que c'est une équipe quand même refroidie, une équipe qui est pas très, qui n'a pas énormément de confiance en ce moment, contrairement à Rimouski qui, eux, sont 8-2. Donc, Rimouski, vraiment, je veux dire, c'est ça, moins que Moncton, on s'entend, mais ils rentrent avec un peu le momentum, la confiance et en plus l'envie de remporter la Coupe des Présidents comme ça. C'est un peu quelque chose à défendre. C'est un honneur parce que oui, t'es hôte de la Coupe Memorial et tu vas participer à cette coupe-là, mais tu veux pas te faire éliminer rapidement puis un peu se faire dire comme, hey, cette équipe-là est juste à la Coupe Memorial parce que c'est les hôtes, là. Tu veux avoir une raison d'être là. Et c'est ça qu'ils vont devoir défendre, là. C'est un peu leur honneur. Et ça peut amener du stress, ça peut amener de la pression. Pour la première ronde, j'en mettrai pas trop sur eux parce que je pense qu'ils sont en très bonne main, d'un, avec leur très bonne équipe de coach. Mais t'sais, ils ont le momentum. Justement, je vais vous en parler un peu là, mais t'sais, Rimouski, ils ont le meilleur gardien de but peut-être de la ligue. En tout cas, c'est lui qui a gagné le trophée de la meilleure moyenne de buts contre. William Lassell, l'ancien des Lions du Lac Saint-Louis. William Lassell est juste fantastique. Vraiment, il n'y a pas des statistiques qui sont flash, là, je veux dire. Il y a la meilleure moyenne de buts contre, oui, pour le nombre de matchs joués, là. Mais il y a, je pense, 909 de taux d'arrêt. Mais c'est juste un gardien qui est très solide dans les moments qu'il faut, dans les séries. Moi, je l'avais vu justement à son année de repêchage de LHMQ. Je l'avais vu dans les séries finales. Donc, les demi et la finale. Non, ben, pas la finale parce que justement, ils avaient été éliminés, mais dans les demi. Dans la M18-3A, et justement quand le moment était important, là, il l'a fermé et il a donné toutes les chances à son équipe de rattraper le match et de bon, au final il l'avait perdu, mais c'est un gardien des grands moments. Il y a aussi Jonathan Fauchon, donc le champion pointeur de la Ligue junior majeure, la Ligue junior maritime Québec. Il y a Bon, Catafor, Mathieu Catafor, qui lui était le champion pointeur de l'année passée. Il y a Spencer Gill, un excellent défenseur. Il y a Eric Mateyko, que vous avez sûrement entendu parler lors du championnat mondial junior 2025 avec la Lettonie. C'était vraiment le joueur étoile. Et il y a Alexandre Blais aussi, l'espoir de Washington. Donc, c'est une équipe, quand je veux dire, bâtie différemment que les autres hôtes de la Coupe Memorial, c'est que d'habitude, on va peut-être plus voir, comme l'année passée à Saginaw, c'était un peu avec les Zane Parekh, les Michael Misah, les Owen Beck. peut-être des joueurs avec plus de côté élite de la Ligue nationale, des joueurs avec un peu plus de justement un potentiel élite, alors que là, c'est vraiment une équipe bâtie, bien bâtie, construite pour les séries juniors. Et l'année prochaine, là aussi, je parlais de Mekena tantôt, ben ça va être à Medicine Hat, donc où est-ce que Mekena joue. Donc, vous comprenez, des fois, justement, le Memorial veut aller où est-ce que l'attrait est. Et c'est sûr que Mekena dans la Memorial Cup, ça serait super intéressant. C'est vraiment pas sorti encore que Mekena ne se pointe pas à la Memorial Cup cette année parce que Medicine Hat sont une équipe du tonnerre dans la Ligue de l'Ouest. Du côté de Charlottetown, c'est sûr que c'est ça. C'est un peu plus faible, comme j'ai dit tantôt. C'est une équipe bien balancée, un gardien de but qui peut vraiment faire la job. Leur meilleur scoreur, Butler, moi, je l'aime bien, mais c'est ça. C'est pas un joueur, je pense qu'il il aura de la difficulté lui-même tout seul à être capable d'affronter une équipe comme Rimouski de cette lourdeur-là. Il y a Owen Conrad, qui est un défenseur éligible à 2025. Peut-être pas mon préféré. C'est un défenseur un peu plus défensif. Un peu plus physique, qui a quand même des bonnes habiletés offensives très limitées, mais je pense que c'est un beau projet. Est-ce qu'il va être repêché? Ça, je peux pas le dire. Personnellement, je pense pas que c'est un joueur qui va être repêché, mais un défenseur de 6 pieds 3, il y a toujours cette possibilité-là. Donc, moi, Rimouski, je pense qu'il l'emporte 4-0, encore une fois. Dans les premières séries que je vous parle, là, c'est vraiment là, les tops de la Ligue qui jouent contre les bas de la Ligue. Donc, je pense qu'il y a très peu de parité, là. C'est un peu, ça penche d'un côté seulement. On va enchaîner avec la prochaine et ça qui peut être quand même une émotive pour quelques-uns puisque, ben, Chicoutimi contre Acadie Batters, c'est sûr que c'est la dernière fois qu'on voit ça parce que Acadie Batters, c'est leur dernière saison dans la LHMQ. L'année prochaine, on s'en va à Terre-Neuve, et ça va être une autre franchise qui débute. Après vingtaine d'années, je pense, Acadie Batters ferme le tout. C'est dommage, mais en même temps, à un moment donné, c'est, vous savez, le hockey, c'est une business. Maintenant, rentrons dans plus qu'est-ce qui se passe sur la glace. Donc, pendant la saison, Chicoutimi, eux, ont gagné un match en temps régulier et ont perdu un en tir de barrage, si je me trompe pas, alors que Bathurst, eux, ben, c'est une victoire, une défaite. Donc, juste avec ça, on pourrait se dire, c'est quand même une série qui est proche, quand même une série qui est serrée. Et dans les 10 derniers matchs, le momentum n'est pas avantageux d'un bord ou de l'autre. Donc, c'est peut-être une série qui pourrait surprendre. Je pense que Batters sont une équipe avec justement l'espèce de. Ils se battent pour quelque chose. Vous savez, ils ont une motivation extrinsèque, une motivation qui vient de l'extérieur de c'est la dernière de la franchise. On veut pas que ça finisse en quatre matchs. Donc, je pense que ça peut être une série très, très, très intéressante. Après, on s'entend quand même que Chicoutimi, c'est une des tops de la Ligue. C'est dans les top 6 de la Ligue. Sur 18 équipes, quand même, être top 6, c'est très fort. Chicoutimi ont Maxime Massé, Alex Wang, Loïc Uzereau, Thomas Desruisseaux. Bon, j'aurais aimé ça parler d'Émile Guité, mais Émile Guité, cette saison, n'a pas montré vraiment qu'il était un élément clé de cette équipe-là. C'est pour ça que j'ai le penchant encore une fois de dire Chicoutimi parce qu'on s'entend, comme je l'ai dit, c'est une des premières séries, c'est les séries où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'avantages d'un côté. Mais l'Acadie, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette saison, ils ont vraiment pas dépend, ils ne dépendent vraiment pas de leur power play, de leur avantage numérique. Puis ça, ben, on peut le voir juste par leur pourcentage, là, 13%. 13%, c'est le pire de la ligue. Et c'est quelque chose qu'on sait qu'en série, ben, c'est pas un élément c'est pas un facteur important, là, les désavantages et avantages numériques, parce que les arbitres sont beaucoup plus lousses sur le sifflet et sur les punitions. On laisse beaucoup plus le jeu se dérouler. On va vraiment plus punir en cas de un peu en cas plus grave, là. Donc, ça pourrait être un avantage à l'Acadie. Mais c'est ça, tu sais, l'Acadie, je veux dire. C'est pas une équipe avec extrêmement de profondeur. C'est une équipe qui, bon, c'est ça. J'ai la difficulté à voir comment ils vont pouvoir sortir de là vainqueurs, mais je pense que ça pourrait quand même être une série qui finit comme 4-2. Moi, je verrais ça, là. Je verrais Batters gagner leurs deux matchs à la maison. Peut-être même que ça se finirait 4-3 parce que justement, l'espèce de côté que c'est leur dernière saison, je pense que les joueurs vont être motivés encore plus à prouver ou à montrer à la région qu'ils veulent leur redonner. Ça va sûrement être des matchs avec énormément de public, avec beaucoup d'achalandage, beaucoup de tu sais, y aura un hype. Donc, Chicoutimi et les fans de Chicoutimi, pensez pas que vous entrez dans une série facile. Ça pourrait vous surprendre. Pour la suite, on va commencer avec commencer. On va commencer avec qu'est-ce qui s'est passé pendant la saison. Bécomo a gagné les deux matchs en temps réglementaire, alors que Quai-Breton, eux, ont perdu les deux matchs en temps réglementaire, ça va ensemble. Dans les 10 derniers, c'est pas mal semblable, mais dans le terme que Bécomo, eux, sont 5-0-1 dans leurs 6 derniers. Et Quai-Breton, eux, sont dans une série de victoires de deux de suite. Donc, les deux équipes rentrent en série avec un momentum, avec une confiance, avec quelque chose, avec une formule qui fonctionne pour eux. Alors, ça peut être intéressant parce que des équipes qui rentrent motivées puis qui rentrent confiantes, ça peut vraiment tout changer. Puis, la confiance et le momentum en série, ça peut changer en une période. Alors, d'avoir au moins une confiance de base des deux côtés, c'est intéressant. Du côté de Quai-Breton, il y a l'ancien premier choix au total de la LHJMQ, Thomas Lavoie, le prospect, l'espoir de Utah, qui a eu une mention honorable pour le défenseur du mois. Donc, quand même, encore une fois, il fait partie de la raison pourquoi Quai-Breton rentre en feu. Cam Squires, lui, est en feu, complètement en feu. C'est l'avant du mois. Donc, c'est l'attaquant du mois dans la LHMQ avec 19 points en 10 matchs. Et il y a aussi Cournoyer, le gardien de but, qui lui est une mention honorable au goalie du mois. Donc, techniquement, le deuxième goalie du mois. Donc, on a quand même un joueur à l'attaque, un joueur à la défense et un joueur dans les buts qui sont les joueurs du mois. Donc, est-ce que y a un élan qui s'en va du côté de Quai-Breton? Peut-être Thomas Lavoie est un défenseur très sage, je sais pas comment je pourrais le dire d'autrement. C'est un défenseur qui est très bon dans les deux sens de la patinoire, qui a un gros gabarit. Donc, dans les séries, ça pourrait très bien aller pour eux. Mais ça, c'est quand même, si on regarde juste Quai-Breton, le Baie-Comeau, c'est une équipe dominante. Une saison quand même de 77 points en 64 matchs. C'est une équipe qui, ça fait 2 saisons maintenant, là, donc c'est la troisième qui se rend en série, qui se rend loin. C'est une équipe qui a bâti gardien de but, défenseur, attaquant avec des joueurs de élite, là, que je pourrais dire quasiment, là, en tout cas, élite dans le junior, là, ça c'est 100% garanti. C'est pourquoi je vais leur donner le bénéfice du doute, si je pourrais dire. Je pense que Bécomo va remporter cette série-là 4-1 avec Beckman dans les buts, l'ancien gardien de but du Rousseau Royal, que Renaud et moi, c'était un des premiers joueurs midget qu'on avait interviewé. Donc c'est toujours fun de voir des joueurs comme ça avec qui on a parlé réussir. Justin Carbonneau en est un autre. Donc Beckman, vraiment un choix quand même, je pense, de troisième, quatrième ronde dans les buts de la Ligue nationale cette année, ça devrait être envisageable. Il y a Alexis Bernier, le défenseur que tu ne veux pas affronter. L'année passée, je l'avais extrêmement aimé quand je faisais mes analyses d'espoir. C'est un défenseur rugueux, c'est un défenseur après les sifflets qui te fatigue. Il y a Justin Poirier, le scoreur, c'est un marqueur de but naturel. Et il y a Mathias Melowski aussi qui est très, très important dans cette équipe-là. Je pense juste à cause de ces étoiles-là, Bécomo va remporter cette série-là. Mais comme je l'ai dit, 4-1. On passe maintenant avec Drummond Halifax. Donc, pendant la saison, Drummondville a gagné 2 matchs contre Halifax et il n'y a pas eu de points réclamés du côté d'Halifax. Donc, on pourrait dire que c'est facile. Drummondville le gagne. Puis je pense que vous auriez raison dans un sens. Dans les 10 derniers, Halifax est dans une passe quand même désastreuse. C'est une équipe qui a été la dernière repêchée. Donc, ils ont 48 points. Celle après, c'est Gatineau avec 49. Ils ont vraiment Dans une autre saison, ils n'auraient peut-être pas été dans les séries. Je veux dire, St. John a même plus de victoires qu'eux. C'est juste qu'ils ont aucune défaite en prolongation ni défaite en tir de barrage. Donc, St. John ont pas les petits points de plus que Halifax était capable d'aller chercher en prolongation ou en tir de barrage. Mais tu sais, ça fait quand même, c'est ça. C'est la dernière équipe repêchée. On peut pas, comme je l'ai dit au début du podcast, il y a vraiment une disparité entre les tops de la ligue et les équipes au bas. Puis Drummondville sont un peu dans leur. Quand je parle du cycle, là, ils sont au pic, là. C'est comme là, Drummondville, ils sont bâtis pour cette année. Ils se sont bâtis depuis 2, 3 ans et c'est cette année qu'ils doivent gagner. Drummondville, première équipe de la conférence de l'Ouest, 86 points. Ils rentrent avec quand même 6 victoires, 4 défaites dans leurs 10 derniers. C'est pas affreux. C'est pas incroyable comme Moncton. Mais bon, ils ont quand même Oliver, le meilleur pointeur, ben le meilleur buteur de la LHMQ cette année. Ils ont Ethan Gauthier, bien évidemment, qui est un joueur purement pour les séries. Ils ont Woodworth, qui est un joueur offensif vraiment très puissant. C'est peut-être une équipe qui est très forte au top dans la première ligne, mais qui se base pas mal sur ces joueurs-là de pointe pour produire et pour gagner, alors que le reste de l'alignement produit pas énormément. Il y a quand même un gars que peut-être vous vous rappelez, c'est Riley Mercer, le frère de Dawson. C'est un joueur que le Canadien avait, un gardien de but, que le Canadien de Montréal avait invité à leur camp en 2022. Et bon, ben. Riley Mercer est au sommet de son art en ce moment, vraiment incroyable devant les buts. Donc Drummondville sont quand même bâtis pour passer à travers cette équipe d'Halifax qui est quand même très, qui est pas à maturité du tout. Et je vais vous en parler maintenant. Halifax, c'est une équipe, et c'est ce que je disais de Bécomo il y a 2 ans, c'est une équipe qui est bâtie pour les 2 prochaines saisons. C'est une équipe qui est allée chercher des joueurs dans la même fenêtre d'âge, en fait dans le même âge, parce que ouais, dans le junior, il n'y a pas de fenêtre tant que ça, c'est vraiment la même âge qu'il faut que tu vises un peu, là. Ils ont Liam Kilfoyle, Alex Carrier, Sean Carrier, Quinn Kennedy et Carlos Hendel, 5 joueurs éligibles à ce repêchage-ci. Est-ce que les 5 vont être repêchés? Je pense pas. Je pense qu'il y en aurait peut-être 2 là-dedans qui vont être repêchés, mais c'est quand même 5 joueurs qui ont été qui ont eu des hautes attentes, qui étaient dans la première ronde, je pense, ben pas, je dis je pense parce que Carlos Hendel, en fait, c'est un Allemand, fait qu'il a pas été dans le repêchage de la LHMQ. Lui, c'était dans le draft import. Mais les 4 autres, ça a été des choix de premier tour en 2023 du draft de LHMQ. Donc, c'est une équipe qui est, c'est ça. C'est très bien où est-ce qu'ils sont en ce moment, ça va leur donner de l'expérience, mais c'est pas une équipe qui est prêt à gagner la coupe là, et même je pense gagner une ronde. Liam Kilfoyle, je vais juste dire ici, c'est un petit je vous le lance en primeur ceux qui écoutent, mais Liam Kilfoyle est un gars que j'aime énormément. C'est un gars que j'entends parler nulle part. Je pense que c'est un joueur qui est bâti pour être sur une troisième ligne dans la Ligue nationale. Donc vous l'aurez entendu ici en premier, mais tu sais, c'est ça, ils affrontent Drummondville. Drummondville était le gagnant de la Coupe l'année passée. Ça n'avait pas été trop beau en Coupe Memorial, donc c'est une équipe qui veut se reprouver en Memorial Cup. Ça va être très dur pour Halifax. Moi, je pense que ça, c'est une des séries qui va finir 4-0. Là, ici, on a Rouyn-Noranda contre Gatineau. Et juste avant d'entrer en onde, je jasais avec quelques personnes et il y en avait une, je vais la garder anonyme, mais elle parlait, elle est plus du côté de Sherbrooke et elle disait que Gatineau, Rouyn-Noranda serait peut-être la série où est-ce qu'il pourrait y avoir une grande surprise et que ça penche du côté de Gatineau, l'équipe qui est la dernière repêchée dans la conférence de l'Ouest, alors que Rouyn-Noranda, c'est une équipe qui est en feu. Donc ça va être à voir, je sais pas, ici on est beaucoup des gens de l'Abitibi, et donc peut-être que vous allez être déçus d'entendre ça, mais Gatineau pourrait surprendre. C'est une équipe qui fait les séries pas mal à chaque année depuis 20 ans, je pense. En tout cas, ils ont battu un record là, du nombre de séries de suite. Ils participent, ils trouvent la manière de participer aux séries à chaque année. Et là, cette année, ben, c'était un peu un cadeau puisque les Victoriaville étaient vraiment très désastreux là. Ça faisait mal un peu à regarder. Mais bon, Rouyn-Noranda, donc, contre Gatineau, c'est deux équipes qui se sont affrontées énormément depuis le début. Quand je parle des séries, je dis que pendant la saison, les équipes se sont peut-être vues une, deux, ben pas une, mais deux ou quatre fois. Mais là, Gatineau et Rouyn, ils se connaissent, là. Ils se sont vus 8 fois cette saison. Gatineau, eux, sont sortis avec 5 victoires, une défaite et 2 en prolongation. Alors que Gatineau, eux, 3 victoires, 4 défaites et 1 en prolongation. Donc, on s'entend qu'il y a quand même un penchant du côté de Rouyn. Mais Gatineau a été capable d'aller chercher ses points quand il jouait contre Rouyn. Et là, oui, ben voilà, il y a Anthony ici qui dit ça fait 40 ans de suite que Gatineau font les séries. Donc c'est ça que je veux dire là. J'ai dit 20 ans, c'est 40 ans. C'est complètement fou quand on y pense. Je veux dire, on le sait qu'il y a juste 2 équipes par année qui font pas les séries dans la LHMQ, mais puis je sais pas c'était comment il y a 20 ans là, mais c'est quand même assez incroyable que cette équipe-là réussisse à chaque année à au moins jouer un peu du hockey de printemps. Je veux dire, c'est quand même, c'est tout en leur honneur, là, parce que on s'entend que même Québec, qui était un super house, qui était une équipe incroyable, a pas été capable de rester en série l'année après leur victoire. Ils sont tombés dans le bas du classement. Victoriaville, c'est la même affaire cette année. Saint-John aussi. Donc, il y a toujours un peu ce côté-là où est-ce qu'il drop après la victoire. Puis c'est un peu la même chose dans la Ligue nationale, là. Souvent qu'on voit l'équipe pendant 10 ans être au top, puis après ça avance en bas. Il est un peu triste pour les Tigres, mais regarde, Anthony, comme tu es là avec moi, je vais en profiter, mais les Tigres, en ce moment, je suis en train d'analyser le jeu de Maddox Labre, un défenseur 6 pieds 2, gaucher, et je l'aime énormément. Je le trouve vraiment, vraiment mobile. Je le trouve intéressant. C'est un joueur avec un bâton très, très fort. Je vais sortir une analyse de ce joueur-là bientôt. Mais les Tigres, là, vraiment, je veux dire, moi, j'ai aucune allégeance dans la LHMQ, donc j'écoute toutes les équipes avec aucun biais, là. Puis les Tigres, vraiment, ça fait vraiment. Je veux pas dire le mot, mais ça fait un peu pitié. Je me sens très mal pour eux parce que à chaque fois, c'est comme. Je sais pas, là, je regardais l'autre fois un match c'était contre Sherbrooke, donc même pas une équipe qui est au top de la ligue. Et c'est vraiment juste. C'est ça, on dirait que je me sentais mal parce que le match était au bout de leurs doigts. Ils étaient dans le match jusqu'à à peu près à la 20, 35e minute. Et là, en 4-5 minutes, je pense, Sherbrooke a marqué 4 buts ou 3 buts. En tout cas, le match est passé d'être 2-1 à comme 5-1. En l'instant d'un claquement de doigts. Donc, c'est ça, regarde. Puis même, là, t'en parles, Gabriel Daigle, il était le gardien d'avenir de cette équipe-là. Gabriel Daigle, c'était le numéro 2 en 2022 du repêchage. C'était supposé d'être le meilleur gardien de but québécois pour l'avenir. C'était peut-être supposé d'être celui qui allait rendre fier le Canada et le Québec d'avoir des bons gardiens de but, là, des gardiens de but élites. Et on dirait pas que c'est ça en ce moment. Je veux dire, regarde, à date, j'ai regardé 3 matchs de Maddox Labre en me concentrant sur lui. J'en ai deux que c'était Gabriel Deck qui a commencé. Il y en a un que c'était Hanlan, je pense. Je veux pas me tromper d'équipe, là, mais je pense que c'était Hanlan et qui Hanlan, après une période, avait été remplacé par Gabriel Deck. Sincèrement, je veux dire, je l'ai dit au début du podcast, mais je suis pas un expert de gardien de but, mais c'est juste, il y a des choses que je vois, puis à part vraiment quand sa technique est comme impeccable et il est capable de faire des arrêts de fou, je trouve souvent qu'il y a des trous, ou que, en tout cas, les rondelles rentrent beaucoup trop facilement. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui écoute, qui est un analyste de gardien de but, là, plus avancé que moi. Moi, je me concentre plus sur les joueurs, mais vraiment, là, en tout cas, aussi, c'est ça. Gabriel Daigle est tout seul. Je veux dire, regarde, Maddox Labre, je pense que c'est la seule bonne nouvelle des Tigres, c'est de dire on a un défenseur numéro 1 pour 3 ans encore. Puis encore une fois, c'est difficile de juger un joueur quand il est dans une équipe qui est autant mauvaise que ça, parce que tu te dis, OK, mais c'est quoi qui serait dans une bonne équipe? À quel point est-ce que là, en ce moment, il a l'air meilleur qu'il l'est parce qu'il est dans une équipe qui va tellement mal que dès qu'il fait un bon truc, on dirait qu'il sauve l'équipe? Et aussi à l'inverse, à quel point peut-être qu'il paraîtrait mieux dans une meilleure équipe parce que l'arbre a jamais la rondelle ou quand il l'a, c'est vraiment dans des situations très, très dangereuses, très risquées. Quand il fait des jeux offensifs, qui est à l'attaque, ben la plupart du temps les jeux avortent ou tu sais les jeux mènent à rien, donc il n'y a pas beaucoup de points, donc c'est pas un joueur que tu regardes les stats et que tu te dis waouh, il est très 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 gros potentiel. Donc c'est ça, c'est un peu c'est difficile à faire comme analyse un peu le Victoriaville avec justement leur saison qui est désastreuse, mais bon, on va leur souhaiter un premier choix puis Alexis Joseph. Donc pour revenir sur Rouen puis Gatineau, que ça fait 40 ans qu'ils font les séries, merci à Anthony. Mais Rouen a le devant. Je veux dire, regarde, Rouen rentre dans les séries avec 8-2-0 comme fiche, 8 victoires, 2 défaites. C'est vraiment très fort. Et Gatineau, eux, ben, rentre avec 2 victoires de suite. Donc bon, un petit momentum de chaque côté. Mais Rouen a le devant, là, je veux dire, Bill Zonon, Alex Carr, le défenseur du mois, Antonin Véraud, Thomas Verdon, Sam Meloche, qui lui est la recrue du mois, Lars Steiner et Higgins, Ty Higgins. Donc vraiment, c'est une équipe, là, j'ai dit plein de joueurs, mais c'est vraiment une équipe qui est bâtie pour se rendre loin. Et j'ai bon, c'est ça, j'ai hâte de voir parce que justement la personne qui me parlait que ça pouvait être une série selon elle qui serait chaudement disputée, clairement elle a ses arguments, puis pour les comprendre, l'affaire c'est que Gatineau, à part Mainville, je ne vois pas tant où est-ce que cette équipe-là va être capable de surmonter Rouen. Bill Zonon, c'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement. Je pense que moi, je l'ai plus bas que la plupart des gens l'ont. Mais je pense qu'en junior, c'est un joueur qui est dominant et qui va continuer de l'être en série. C'est un joueur fait pour les séries. On va continuer. Il en reste seulement trois et ensuite, on va se lancer dans les agents libres en NCAA. Mais bon, Shawinigan contre Val d'Or. Donc, ici, je pense qu'on est dans le mille, on est justement, on est non biaisé, on n'a aucune allégeance à la LHMQ, mais sur la bande, on est du côté de Val d'Or majoritairement. Et ben contre Shawinigan, cette année, Val d'Or, bon, ben, ils ont eu 2 victoires, une en temps réglementaire et une défaite en temps réglementaire et une en prolongation. Et Shawinigan aussi, c'est la même chose. Donc, comme on dit en anglais, neck and neck, là, ils sont à égalité pendant la saison. Les deux équipes sont sorties avec 5 points dans leurs 4 rencontres. Shawinigan, eux, ils sont à 10-0 et 3, donc ils sont à 23 points dans leurs 13 derniers matchs, alors que Val d'Or, eux, sont à 6-3-1, donc à 13 points dans leurs 10 derniers. Donc, c'est vraiment deux équipes qui rentrent avec une confiance et de l'attaque qui fonctionne. À Shawinigan, il y a Matvei Grydin qui était la deuxième recrue du mois, juste après Meloche. Il y a Félix Lacerte, il y a Louis-Antoine Fontaine, Vincelli, Tourigny, Mathis Fernandez qui est très solide aussi devant les buts. Donc c'est là que Shawi pense que ça va être leur avantage, c'est Fernandez devant les buts. Ensuite, à Val d'Or, et là, ça tombe bien, regardez ici. Que penses-tu de Philippe Veilleux, Noah Reinhardt et Donovan Arsenault? Moi, pour Val d'Or, dans mes notes, là, ce que j'ai marqué, c'est Veilleux, Brisson, Reinhardt. Il faut que ce trio-là fonctionne. Il faut que ce trio-là continue à jouer comme il jouait il y a un mois. Il faut que ce trio-là continue à porter sur leurs épaules cette équipe-là un peu. Il faut que Veilleux. En fait, j'ai très hâte de voir Veilleux parce que. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo d'analyse de Veilleux, mais sur la chaîne Dans le Mille, si vous tapez sur YouTube Philippe Veilleux, vous allez tomber sur ma vidéo. Et j'en parle un peu du fait que Veilleux, j'ai hâte de le voir en série parce que ça se referme le jeu en série, ça devient plus physique, les arbitres sont beaucoup moins sévères. Donc Veilleux pourrait peut-être être un joueur qui se devient un peu plus caché. Et là, c'est là que j'ai hâte de voir à quel point il va être capable de sortir son épingle du jeu. Et Donovan Arsenault, ben, c'est un autre joueur avec Reinhardt, un peu le plus physique dans la van Arsenault. Selon moi, là, les matchs que j'ai vus est vraiment très, très, très dominant physiquement. Anthony ici nous dit, j'ai hâte de voir si les Foreurs vont passer en deuxième ronde. Ça se joue sur la glace complètement. Puis t'as vraiment raison parce que moi aussi, j'ai hâte de regarder cette série-là. Avec Cossette-Ayotte, avec Bondar. La seule point d'interrogation, puis je sais pas si Anthony t'es d'accord avec moi, mais devant le net, je le donne complètement à Fernandez. Je pense que malheureusement, Val d'Or n'a pas eu de stabilité devant le filet et c'est ça qui va faire c'est ça qui va faire peut-être mal. Et là, bon, on a Seb qui est en vacances et qui dit qu'il arrive quand je parle de Veilleux. Ouais, mais regarde, c'est les étoiles qui sont alignées, Seb. Mais non, Veilleux, c'est ça, j'ai hâte de voir parce que c'est vraiment. Veilleux, c'est peut-être selon moi le joueur avec Gridin, là, parce que Gridin est vraiment excellent, mais c'est le joueur qui est le plus talentueux des deux équipes. C'est juste que il va falloir qu'il trouve une manière de se démarquer parce que Shawinigan ne vont pas le laisser aller autant facilement. Là. Puis Vincelli, c'est un gars qui est de l'autre bord, qui est avec Shawinigan, qui est pas le plus grand gabarit non plus, mais qui est un peu plus rugueux que Veilleux, un peu plus vieux aussi. Mais c'est ça. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. C'est une série, selon moi, va avantager Shawinigan parce que comme Sébastien, il dit, Beaunoyer, il faut qu'il fasse le travail. Puis ça, c'est pas garanti encore. C'est pour ça que je vais dire Shawinigan 4-3. Mais quand je dis 4-3, c'est parce que c'est une série qui va être très, très, très serrée. Anthony, il dit, Reinhardt ne parle pas beaucoup, on dirait. Est-ce que tu parles de parler comme sur la glace? Peut-être que ça, c'est des informations que vous pouvez me donner parce que vous êtes au centre Agnico Eagles, si je me trompe pas, là, d'Arena. Mais en tout cas, en vidéo, ça, c'est vraiment difficile. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un avantage de regarder les joueurs en vrai, mais c'est ça. Veilleux, Brisson, Reinhardt, c'est vraiment ça la clé pour Val d'Or s'ils veulent gagner cette série-là. Ouais, Seb, il vient de sortir. Val d'Or 2-1 face à Chaoui. Ouais, mais Seb, Chaoui sont aussi 2-1-1 face à Val d'Or. Fait que ça s'équivaut. C'est ça que je disais au début t'as sûrement manqué quand je parlais de ça, mais c'est ça. Ça va être intéressant parce que justement, ça se pourrait que ce soit les deux. Anthony, c'est ça la beauté avec Val d'Or, c'est que comme ils ont personne devant les filets qui a vraiment pris le poste de numéro un, ben ça va être au meilleur à prendre ce poste-là. Puis regarde, c'est ça va être Veilleux, Brisson, Reinhardt. Je vous le dis tout de suite. Si ces trois-là performent, il la gagne la série. Si ces trois-là performent pas ou performent pas assez, c'est à Shawinigan. Donc, je vais donner l'avantage à Shawinigan. La dernière série, et ça, c'est la même que l'année passée, c'est la seule qui s'était rendue en plus que 6 matchs l'année passée, et c'est Blainville-Sherbrooke. Donc, Blainville-Sherbrooke, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que, bon, de un, Blainville, c'est l'équipe qui est à côté de chez moi, donc, ben, à côté de chez moi. C'est l'équipe la plus proche, donc c'est celle que je peux me rendre le plus facilement. C'est aussi la série qui est peut-être la plus serrée parce que, comme je vous le dis, là, on se ramasse à la fin de toutes les séries. Sherbrooke-Blainville sont à 5 points différents dans la conférence de l'Ouest. C'est deux équipes qui ont été tout le long de la saison très proches. Donc, là, je voulais juste revenir là, sur Anthony qui dit non, quand il s'entraîne au ballon avant le warm-up. OK. Bon, ben, ça, c'est des bonnes informations que tu vois, je n'ai pas. Merci d'arriver avec ces petits compléments-là. Donc, c'est ça, pour finir, là, Blainville-Sherbrooke. Pendant la saison, Blainville a gagné 3 des 4 matchs et la seule défaite, c'était en prolongation, en tir de barrage même, si je pense bien. Alors que Sherbrooke, eux, c'est une victoire, une défaite en temps régulier et 2 en prolongation. Donc, juste pour la saison, l'avantage est à Blainville. Ensuite, c'est intéressant parce que la saison passée, comme je l'ai dit, la série, c'était la seule qui s'est rendue en 7 matchs et c'est Sherbrooke qui l'avait remportée. Pendant les 10 derniers matchs, les deux équipes sont perdants, donc ça avantage aucune équipe, ce qui est quelque chose de bien dans un sens. Les deux équipes n'ont pas gagné depuis 3 matchs, puis même Blainville, ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné un match. Blainville, selon moi, par exemple, vont avoir le dessus, je veux dire, Justin Carbonneau, Xavier Villeneuve, Matteo Nobert, Goriunov. Voilà les noms que vous devez entendre. Carbonneau est juste fantastique à l'attaque. Villeneuve, défensivement, je le dis tout de suite, ça va être un choix top 10, même peut-être top 5 l'année prochaine. Il y a quelques autres joueurs, là, autres défenseurs en 2026, là, comme Veyhoff dans la Ligue de l'Ouest, mais Xavier Villeneuve est juste fantastique. C'est comme, il y avait quelqu'un qui m'avait posé ça il y a 2 ans, quand j'avais parlé de Villeneuve au repêchage de la LGMQ, que j'avais dit que Villeneuve, c'était un peu un Lane Hutson, un peu plus grand, un peu plus physique. Puis bon, je ne sais pas à quel point Villeneuve va atteindre les sommets de Lane Hutson, là, parce que c'est quand même des très grosses attentes, là, mais Villeneuve est un choix top 5 selon moi. Cette année, ça serait déjà un choix top 5 qui est au-dessus d'un point par match, un défenseur. J'ai rien à dire à plus. C'est un joueur qui contrôle le jeu défensivement, offensivement. C'est un bully sur la glace. Carbonneau, c'est un bully. Nobert, c'est un joueur super responsable. Gorionov, c'est un joueur offensif incroyable, un power forward. Je veux dire, c'est une équipe qui est bien bâtie avec des joueurs, justement, des piliers vraiment très importants. Samedi, Blainville en 7. Moi aussi, j'avais comme le sens de dire Blainville en 7, mais tu sais quoi? Je vais juste dire Blainville en 6 parce que je sens que Blainville va avoir le dessus. Alors que selon moi, une série qui sera en 7, c'est une série qui pourrait aller des deux bords, comme un match qui sera en tir de barrage. Sherbrooke ont Louis-Alex Tremblay, un défenseur que j'aime énormément, un défenseur qui était dans le top du repêchage 2023 de la LHMQ. Malheureusement, Louis-Alex Tremblay, puis là, c'est ça, je vais aller chercher parce que je ne l'avais pas préparé correctement, mais Louis-Alex Tremblay est un petit défenseur, 5 pieds 9, défenseur droitier, mais très calme, des belles passes, une prise de décision très rapide. Il sait ce qu'il va faire avant le jeu. C'est un joueur qui joue contre les meilleurs trios adverses. Il a un positionnement impeccable. C'est vraiment, vraiment dommage qu'il soit 5 pieds 9 parce que il est juste tellement bon. C'est tellement un bon défenseur. Ça va être un excellent défenseur junior. C'est un défenseur qui va être un peu, dans 2 ans, selon moi, qui va être un défenseur qui va aller chercher des choix de repêchage de fou pour l'équipe qui va vouloir l'acquérir. Il est sur le premier power play. C'est un joueur qui est rassurant. Même dans une mêlée devant le filet, il reste terre à terre. Il joue pas trop physique pour rien. Il priorise la rondelle, il appuie l'attaque d'une bonne manière, il prend des bonnes décisions, il enlève tout le temps la rondelle dans le coin. C'est un gars qui, c'est ça, il est 5 pieds 9 puis il gagne ses combats dans le coin. Qu'est-ce que tu veux de plus? Là ici, merci Seb, mais il parlait je pense de Blainville, mais c'est ça, Blainville vraiment sont très puissants. Mais Louis-Alex Tremblay, il y a Primo aussi, qui est un joueur, pas Olivier, là, on parle pas d'Olivier Primo, on parle de Primo, le centre de Sherbrooke, qui est un joueur offensif très intéressant. Puis, il y en a un autre que je veux sortir de nowhere, là, peut-être que ça fait 4 mois que vous en avez pas entendu parler, mais Feldbergs, est-ce que ça vous dit quelque chose, Feldbergs? Eh bien, pour ceux qui ont regardé le championnat mondial de 2025, c'est le gardien de but de la Lettonie qui avait fait un match fantastique contre le Canada, qui était sorti de l'ombre. Feldbergs est un gardien des grandes occasions. Est-ce que c'est un gardien qui va fermer la porte à Blainville? Moi, j'ai mis un point d'exclamation à côté de lui parce que je pense que si Sherbrooke est pour gagner, c'est parce que Feldbergs sera le gardien qu'il a été en décembre contre le Canada. Sinon, je donne l'avantage à Blainville. Et pour finir, ben c'est juste cette année, contrairement à d'autres années là où est-ce qu'il y a peut-être plus de disparité dans la ligue. Je vois vraiment un top 6. D'habitude, c'est peut-être plus un top 4 dans la ligue. Là, c'est peut-être plus un top 6. Et pour moi, cette année, les 6 sont Drummondville, Moncton, Rimouski, Rouyn-Noranda, Chicoutimi et Shawinigan. Donc, voici ce qui était en fait en lien avec les séries de la LHMQ. Si vous avez des questions, je vais continuer à y répondre, ou en tout cas des commentaires, je vais continuer à y répondre, mais je vais enchaîner parce que je veux parler un peu vite des agents libres dans la NCAA. On le sait que la NCAA, c'est des joueurs qui peuvent être repêchés, mais qui ne peuvent pas être signés. Donc, il y a plusieurs joueurs qui se ramassent dans la NCAA, qui se développent pendant 4 ans, et à la fin de leurs 4 ans, ben ils attendent d'être signés, puis des équipes de la Ligue nationale les signent et les emmènent avec eux. Il y a des gars comme Neil Pionk là, qui sont tombés là-dedans. Bobby McMahon en était un. Colin Graff avec San Jose l'année passée. Il y a aussi Quillen, un gars que j'avais passé l'année passée. Jacob Quillen qui avait été signé par Toronto, qui était selon moi un des top agents libres dans la NCAA. Ben cette année, ça continue. Il y en a qui sont déjà signés, par exemple, et je vais commencer avec le premier, Luke Hames. Donc, Luke Hames, vous en avez sûrement entendu parler, 21 ans, Elite Prospect a fait une vidéo sur lui YouTube. C'est un joueur qui joue dans l'université de Dartmouth. Donc, Dartmouth, c'est pas une université qu'on entend souvent parler, on en sent plus les Michigan, Boston University, Boston College, mais C'est un joueur qui a 18 points à 22 matchs. Là, vous allez me dire, ben 18 points à 22 matchs, il y a des joueurs qui ont vraiment des meilleures statistiques que ça. Ouais. Sauf que Luke Hames, c'est un joueur qui est très transposable à la Ligue nationale. C'est un joueur qui a le potentiel et qui a un peu l'étoffe pour devenir très réalistiquement un troisième centre avec une touche offensive dans la Ligue nationale. C'est un joueur avec toutes sortes de manières de marquer. Il a un très bon physique pour se batailler devant le net et ramasser des rondelles. Il est très bon pour dévier. Il est très bon pour faire des one-timers. Il est très bon pour faire des tirs toe drag, un peu comme le Connor Bedard, des tirs du poignet. Donc, c'est un joueur avec justement la possibilité de te faire mal en marquant des buts de plein de sortes de manières. C'est un joueur que tu vois quand il embarque sur la glace, tu le vois parce que il est impliqué. Il a un jeu professionnel. Il active bien le jeu. Il trouve les trous pour être une option de passe pour ses coéquipiers. Et il est très actif défensivement. Donc, c'est un joueur qui est vraiment, vraiment... En tout cas, moi, je le vois là, vraiment s'installer comme un joueur dans la Ligue nationale qui va commencer sur le quatrième trio puis qui va monter sur le troisième trio vers 26-27 ans. Puis, une chose qui est différente avec Luke Hames des autres agents libres, c'est que d'habitude, les agents libres, c'est plus des gars que tu te dis, OK, c'est des gars qui n'ont pas été repêchés, donc c'est des gars qui ont pris plus de temps pour se développer. Donc, leur développement, c'est un peu différent comment ils ont été développés. C'est des gars que tu vas les repêcher plus pour qu'est-ce qu'ils apportent maintenant, puis un peu pour le potentiel, mais c'est vraiment plus sur qu'est-ce qu'il est maintenant, puis qu'est-ce qu'il peut...